maintenant être attentif à la parole du Seigneur et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 24. Et dans ce chapitre qui rend compte d'un certain nombre de paroles de Jésus, je vous invite à lire le verset 30. Matthieu 24, le verset 30. C'est Jésus qui parle. Et il dit, « Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. » Cet espoir que nous avons d'être de ceux qui verront la gloire du Fils de l'homme quand il reviendra. C'est cet espoir que Philippe, notre pasteur, va maintenant nous rappeler par le message que l'Esprit lui a inspiré.
Chers amis, chers frères et sœurs, bonjour à tous et bon sabbat. Un sabbat que nous voulons ce matin placer sous le signe de l'espérance, parce que lorsque nous parlons du retour du Christ, eh bien, nous parlons d'espérance chrétienne. C'est dans cet événement, en cette personne ou sur cette personne, que se centralise ce que nous appelons l'espérance chrétienne. Le retour de Jésus, un retour décrit d'ailleurs dans la parole de façon majestueuse. Il suffirait de lire des textes qui nous parlent de cet événement. Par exemple, Luc, le chapitre 21, le verset 27, on verra le Christ venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Ou encore l'épître de Paul aux Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 16, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette descendra du ciel. Voilà probablement l'événement des événements. Le temps fort de l'humanité, quelle qu'elle soit, pécheresse ou pas, le retour de Jésus-Christ. Amen, dit-on. Y croit-on encore ? Je me demande si, dans nos esprits, nos consciences pourtant bien éduquées, peut-être trop, à force d'avoir rabâché, permettez-moi l'expression, cet événement, à force aussi d'avoir attendu et nous attendons encore, et à force d'autres raisons que je n'aurai le temps ici de mentionner, nous y croyons sans y croire. Bien évidemment, nous sommes tous convaincus qu'un jour le Christ reviendra. Mais peut-être à la façon de certaines écoles d'interprétation de l'Apocalypse. Il en existe grosso modo quatre. L'école passéiste qui interprète les prophéties bibliques à l'homme du passé et qui pour qui le retour du Christ est une image, un symbole tout au plus. L'école futuriste, celle qui voit le retour du Christ dans des temps tellement éloignés du nôtre aujourd'hui que finalement, il ne sert à rien d'en parler. L'école symbolique qui voit là simplement des symboles, des façons particulières, peut-être même poétiques, artistiques, d'imaginer, d'illustrer, d'écrire la spiritualité profonde et intrinsèque à l'humain. Et enfin, l'école privilégiée par l'Église adventiste, l'école dite historiciste, qui voit dans le déroulement, la description des prophéties bibliques, le déroulement de l'histoire humaine ponctué par le retour de Jésus-Christ. Je me demande si, à force d'école, à force de mélange, à force de discours, à force de lecture, nous ne sommes pas tombés dans cette demi-mesure, dans cette demi-croyance. Et cela est dommage, de même que dommageable. Car n'oublions pas, il s'agit là de l'événement des événements, plus encore. Il s'agit de l'élément moteur à notre foi. Si nous n'avons pas, non seulement dans le domaine de la foi, de la spiritualité, mais dans quelque domaine que ce soit, un objectif ambitieux pour lequel nous nourrissons la certitude de son atteinte, nous ne pourrons réussir dans les domaines concernés, et particulièrement dans celui de la spiritualité. Si nous n'avons pas un objectif clairement défini, bien établi, dans lequel nous croyons, nous ne pouvons pas orienter notre vie de foi comme elle se doit. Nous ne pouvons vivre notre vie de foi comme elle se doit. D'où l'importance de reconsidérer ce matin cette croyance fondamentale de notre Église et du christianisme, le retour de Jésus-Christ. Alors d'où viendrait ce tarissement de l'espérance chrétienne? Peut-être d'un discours trop dit, trop dispensé. Peut-être aussi et surtout de l'hégémonie d'une certaine forme de pensée. Nous sommes tous aujourd'hui plus ou moins gagnés par la pensée rationnelle. Et ce, pas uniquement pour nous, particulièrement occidentaux, depuis les Lumières, ces philosophes qui ont apporté une façon logique, rationnelle de réfléchir et ont transmise aux populations que nous pourrions considérer aujourd'hui être leurs enfants. Mais depuis longtemps déjà, avec les Grecs, les philosophes grecs, ce type de pensée assez cartésien, logique, s'est infiltré dans notre esprit, dans notre structure intellectuelle, pour aujourd'hui nous amener à remettre peut-être en cause les descriptions aussi fantastiques, extraordinaires du retour de Jésus-Christ que nous venons de lire. Alors, si tel est le cas, n'oublions pas que, certes, nous devons être des chrétiens sérieux, des chrétiens raisonnés, mais nous devons aussi être des chrétiens spirituels, des chrétiens qui acceptent le merveilleux biblique, qui acceptent cette dimension extraordinaire, surnaturelle, contenue, c'est évident, dans la parole de Dieu. Et nous devons, lorsque nous rencontrons cette dimension surnaturelle, poser à ce moment-là un acte de foi. Il ne s'agit pas d'interpréter à l'aune de ce que nous pouvons intellectuellement accepter. Il s'agit d'interpréter par la foi, avec foi, et s'ouvrir du coup sur des dimensions que notre raison ne permet pas. J'étais hier avec les missionnaires de l'action Connecte-toi Auxerre et que vous connaissez ici, et chez la famille qui réunit ces missionnaires et moi-même lorsqu'une fois par mois nous nous réunissons à Auxerre, la famille Loury que vous connaissez car elle est inscrite dans cette église. Nous avons l'habitude de discuter à propos de la Bible, de prier. Hier, le programme était le visionnage d'un film un peu particulier dont le titre m'échappe peut-être, Religolo. Ça vous dit quelque chose si certains l'ont vu. Et c'est un film très intéressant compte tenu notamment de la mission que ces missionnaires ont sur Auxerre, parler à des postmodernes et des sécularisés. C'est un film qui met en lumière un animateur, comédien, je le crois aussi, qui va dans tous les milieux religieux de notre planète et qui se moque d'eux de façon très fine, très intelligente et qui restitue ainsi la pensée dite postmoderne et sécularisée. Je crois que cette façon de penser qui porte le doute systématique sur tout ce qui n'est pas maîtrisé, compris, est aussi une pensée qui nous a quelque part gagnés. Et qui fait que lorsque nous sommes en présence de thématiques comme celle qui nous occupe ce matin, nous rencontrons de facto une certaine difficulté. Alors faisons acte de foi, c'est-à-dire d'humilité. Avouons à un moment donné que notre raison est limitée, est-elle un enfant finalement dont je voudrais vous rappeler que le royaume des cieux leur appartient ? Regardons ces textes, regardons ces affirmations. Ce sera là un moyen de pouvoir croire dans ce qui vient demain. L'autre élément qui nous permettra d'accepter ces déclarations délicates, c'est l'information. Prenons un exemple. Vous savez que nous avons une campagne d'évangélisation en Fédération France Nord. Elle s'organisera du 1er mai jusqu'au 12 mai. Et il y aura, au milieu de cette campagne d'évangélisation, un temps de pause. De dîner, quel jour ? À votre avis. Le 6. Pourquoi le 6 ? Nicolas Sarkozy ou François Hollande ? Ça vous dit quelque chose ? Un grand événement. Je vois que vous ne croyez pas en l'élection présidentielle parce que vous n'êtes pas assez informé de l'élection présidentielle. Mais rassurez-vous, plus nous allons avancer vers l'échéance et plus, et c'est d'ailleurs déjà le cas, les émissions de télévision, les radios, les journaux vont nous parler, nous marteler, que dis-je, pour que nous soyons convaincus que le 6 mai, nous devons arrêter la campagne d'évangélisation de la Fédération France Nord pour nous consacrer à l'élection présidentielle. Et même si vos idées, vos pensées ne sont pas encore très éveillées à la réalisation de l'élection présidentielle ce matin, je sais que vous y croyez. Et que vous êtes fermement convaincu qu'à la date définie, l'élection aura lieu et qu'on verra sur le coup des 20 heures le visage apparaître de notre prochain président de la République française. Pourquoi ? Nous ne doutons pas une seule seconde de la réalisation de cette élection. Parce qu'il y a et il y aura une information qui va nous préparer à cela. Et cette information sera de telle qualité, tellement adaptée, que quand bien même l'événement n'est pas encore là, pour nous c'est comme s'il s'était déjà réalisé, nous ne remettons en rien l'avènement de cette élection. Alors revenons au Christ. Pourquoi remettrions-nous en cause l'avènement du retour de Jésus ? Parce que peut-être nous ne serions pas assez informés. Et l'information pour nous dans ce domaine, d'où provient-elle ? Eh bien de ce livre. Et je m'arrêterai tout particulièrement sur un domaine que nous aimons dans l'Église adventiste, le domaine prophétique. Quand on considère l'ensemble des prophéties contenues dans le livre saint, nous sommes surpris de constater qu'un bon pourcentage d'entre elles se sont déjà réalisées, notamment pour ce qui concerne les prophéties vétérotestamentaires, celles contenues dans l'Ancien Testament. Quand Dieu dit à Abraham qu'il aura une génération, une multitude, que dis-je, d'enfants, et qu'il s'agira là d'une bénédiction divine, nous aujourd'hui savons de quoi il s'agit et pouvons constater la réalisation de cette prophétie divine faite à Abraham. Et je pourrais ainsi multiplier les exemples. Je veux m'arrêter tout particulièrement vers ces prophéties messianique contenue dans la parole de Dieu. Lorsque nous nous arrêtons sur le Christ, nous sommes surpris de voir la précision de certaines de ses prophéties. Lorsque nous ouvrons la parole de Dieu en Daniel 9, les versets 25 à 26, je lis « Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à celui où un chef sera oint, il y a 7 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux, après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'y aura pas de successeur, le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire et sa fin arrivera comme par une inondation. » C'est une prophétie qui nous donne la date de la crucifixion de Jésus-Christ avec précision. Lorsque nous lisons Michée 5, verset 1, « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les issues sont dès les temps anciens, dès les jours de l'éternité. » Voilà que maintenant on nous donne le nom de la ville dans laquelle, du village dans lequel Jésus, le Messie, doit naître. Et nous nous positionnons ici entre 5, 6, peut-être 7 siècles avant la réalisation de l'événement. Et enfin, j'en termine, les circonstances qui accompagnent l'avènement de la première venue du Christ sur cette terre dans Jérémie 31, verset 15. « Ainsi parle l'Éternel, on entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. » Rachel pleure ses enfants, elle refuse d'être consolée sur ses enfants car ils ne sont plus. On nous parlerait ici du joug romain, de l'oppression romaine sur la population israélite. Circonstances dans lesquelles le Christ vient une première fois. Bref, quand on considère le domaine prophétique biblique, quand on considère qu'en de grandes proportions, les prophéties qui nous sont données se sont en grande partie réalisées. Quand on considère que les prophéties messianiques de l'Ancien Testament nous indiquaient de façon très précise des événements dont nous avons l'avantage avec le recul du temps de pouvoir dire qu'ils se sont réalisés, voilà tout un tas, permettez-moi l'expression, d'informations qui devraient nous amener à ne pas douter une seule seconde de la deuxième venue de Jésus-Christ. Parce que des informations concernant cette deuxième venue, il y en a dans ce même document. Je donnerai simplement que quelques chiffres ou quelques expressions qui vous ramèneront à ces informations. 1260 jours, 2300 soirs et matins, un temps, des temps et la moitié d'un temps. Voilà dans l'Église adventiste des notions que nous connaissons bien. Ce sont des prophéties chiffrées qui nous amènent toutes à la fin des temps et qui pointent de fait quoi ? Le retour de Jésus-Christ. Donc une information prophétique pour nous aujourd'hui, qui nous permettra, comme les médias le feront bientôt pour la future élection présidentielle, de nous maintenir en tension. Un peu comme nos postes de télévision. Vous avez remarqué que contrairement à ce que nous faisions à l'époque, on ne les éteint plus. Ils restent toujours en veille. Eh bien, pointez le regard sur ces données, sur ces prophéties réalisées ou pas encore, c'est se donner la possibilité de rester éveillé. D'autres arguments pertinents, je le crois, et que j'aimerais vous livrer ce matin, nous les trouvons de l'histoire et d'un comparatif entre la première venue de Jésus-Christ, sa naissance, sa mort, sa résurrection, et celle de sa seconde venue. Lorsqu'on lit certaines histoires du christianisme, Il s'agit là d'ouvrages spécialisés dans l'histoire chrétienne. Vous avez des histoires du christianisme spécialisées dans le christianisme dit primitif et dans les époques postérieures à ce christianisme-là. Mais lorsque nous lisons certaines de ces histoires, nous pouvons trouver des données historiques intéressantes et j'aimerais vous les livrer ce matin. Certains de ces historiens analysent l'époque à laquelle le Christ est venu et lorsqu'ils la comparent à celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui, tirent des parallèles troublants. Par exemple, le domaine religieux. À l'époque où le Christ est venu, on assistait à un désintérêt quasi général des religions traditionnelles. Quelles étaient ces religions traditionnelles dans le bassin méditerranéen et notamment sur la partie ouest de ce bassin méditerranéen? Ces fameuses religions polythéistes, ces panthéons grecs et romains, les Zeus, les Poséidons qui ont bercé pour beaucoup d'entre nous notre enfance et l'imaginaire dans notre enfance. Eh bien, ces religions-là étaient laissées en désuétude comme aujourd'hui on laisse quelque part en désuétude les religions traditionnelles de nos pays, de notre continent. On préférait par contre, et ce dans les classes populaires, les religions venues d'Orient. Certaines religions considérées ou appelées à mystère. Le culte phrygien de la Magna Mater Cybèle, de la Grande Mère Cybèle. Les divers Baalim syriens. Les divinités égyptiennes, Isis et Osiris, que vous connaissez probablement. Ainsi que le dieu perse de la lumière, le dieu Mitra. Voilà des spiritualités, voilà de nouvelles formes de religion, de nouvelles religiosités qui viennent sur le versant ouest du bassin méditerranéen et qui gagnent les masses populaires de cet empire romain. Je me souviens de ces images d'archives qui nous montrent des groupes très célèbres des années 60, je pense aux Beatles, aux Rolling Stones, qui allaient en Orient, en Inde particulièrement, pour récupérer des spiritualités orientales. Et qui non seulement les récupéraient là-bas, mais les transportaient en Europe. Et je veux croire aussi quelque part qu'aujourd'hui, pour une religion d'Orient, on affiche aussi quelques traits d'intérêt. De même, à l'époque de Jésus-Christ, de sa première venue, on assistait à une invasion de l'occulte. Il y avait d'une part ce désintérêt pour les religions traditionnelles, cette ouverture pour les nouvelles religions venues d'Orient, et en même temps le désir de se raccrocher à l'au-delà et à travers lui de savoir, de connaître l'avenir. Ainsi, tous les 10 heures de bonnes aventures, les voyants, les prophètes de l'adversaire, étaient recherchés, payés pour donner leurs augures. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont des journaux télévisés ou des programmes de télévision à la maison. Et lorsque vous vous tournez vers les dernières pages de ces journaux, de ces programmes, nous sommes surpris de voir les panneaux entiers consacrés à de la publicité pour les 10 heures de bonnes aventures, pour les astrologues, pour les voyants en tout genre. Encore une fois, un parallélisme troublant entre l'époque de Jésus et la nôtre. Et il y avait aussi, à l'époque du Christ, dans les milieux aristocratiques, intellectuels, l'avènement d'un athéisme bon chic, bon genre. Celui, nous dirions aujourd'hui, des bobos. Voilà qu'on imaginait que finalement il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus tous ces dieux, et que l'homme est enfin invité à se positionner sans foi ni loi devant l'univers. Voilà comment dans ces milieux, plutôt bourgeois, aristocratiques, à l'époque de Jésus-Christ, spirituellement parlant, on se positionne. Là aussi, il me semble qu'il y a un parallélisme troublant avec le positionnement de ces mêmes catégories sociales et intellectuelles dans notre société aujourd'hui. Attachons-nous maintenant, en laissant le domaine de la du religieux, à la politique, à l'économie et à la culture. Le monde de la première venue de Jésus-Christ est un monde de mondialisation. Une mondialisation à l'échelle de cette époque, celle du monde connu et dit civilisé. En effet, grâce aux conquêtes romaines, on essaie et on arrive à imposer les mêmes lois, la même administration, les mêmes règles à tous les peuples regroupés sous le couvert de l'Empire romain. Et ainsi, nous créons un monde homogène, une mondialisation de l'époque. Le simple fait d'évoquer ce matin le mot « mondialisation » nous amène aujourd'hui à cette réalisation en cours. Malgré les difficultés européennes, malgré les difficultés économiques, malgré tout ce que l'on peut imaginer de contrariant, le monde est aujourd'hui global, car il est engagé, et ce de façon irréversible, dans un processus de mondialisation. Regardez aussi dans le domaine économique, il y avait dans cet espace commun, dans ce marché commun de l'époque, une monnaie unique, le denier romain. Comme il y a, même s'il est aujourd'hui bafoué, une monnaie unique en Europe, et comme si certains analystes financiers prédisent pour demain une monnaie mondiale, et je vous renvoie notamment à Jacques Attali. Enfin, dans le domaine de la culture, parce qu'il y avait ces via domicilia tellement bien tracées et réalisées, possibilité de communication entre toutes ces cultures différentes au sein de cet empire romain. Un Gaulois, par exemple, pouvait se rendre assez facilement en Israël, même si le trajet, le voyage n'était pas aussi facile et confortable qu'il ne l'est aujourd'hui, la possibilité n'était pas non négligeable. Et on pouvait ainsi se transporter d'un état dans un autre, d'une culture dans une autre. Bien évidemment, cela favorisait les échanges commerciaux, eux-mêmes favorisés par une monnaie unique, nous l'avons dit, le denier romain, mais surtout, cette facilité de communication tendait vers une homogénéisation de la culture. On créait un citoyen romain, de ce fait, partout où l'on allait, qui pensait de la même façon, qui s'habillait peut-être de la même façon. Et là encore, un parallélisme troublant avec notre époque. Lorsque vous regardez un journal télévisé, lorsque vous regardez des jeunes Arabes de Syrie ou de jeunes Américains des États-Unis ou de jeunes Indiens de je ne sais où, de quelque endroit de la planète que vous regardiez par voie de télévision des jeunes, vous les verrez presque tous habillés de la même façon, portant le même jeans, chaussant les mêmes baskets. Parce que nous avons créé, et je vous renvoie aux sociologues d'aujourd'hui, une culture commune, comme elle était en voie de création, de développement à l'époque du Christ aussi. Alors, encore une fois, des parallèles qui nous troublent, qui nous surprennent. Je pourrais continuer le listing de ces parallélismes troublants, j'en terminerai avec l'évocation d'un dernier, c'est le syncrétisme religieux, et je reviens du coup à ce domaine-là, à l'époque du Christ. Il y avait dans l'Empire romain des personnalités éclectiques qui n'arrivaient pas à se contenter de ces religions qui venaient de l'Orient, ou de l'abandon des religions traditionnelles, ou de l'ouverture à l'occulte, ou encore de l'athéisme des aristocratiques. Alors que faisaient-ils ? Ils mettaient tout dans une seule et même bouteille, ils secouaient le tout et ils créaient une sorte de religion syncrétique de New Age d'aujourd'hui. Alors je poserai une question toute simple que vous devinez probablement. Et c'est le Christ décidé de revenir à une époque qui ressemble, à s'y méprendre, à celle de sa première venue. Voilà des informations qui, peut-être, se transforment en indices et nous invitent à intégrer, raisonnablement cette fois-ci, de façon très logique, cartésienne, l'évidence du retour de Jésus-Christ. Enfin, et j'en terminerai, j'aimerais m'arrêter sur les arguments bibliques, car ce sont les plus probants. J'aime beaucoup, lorsque je réfléchis ou lorsque je parle du retour de Jésus-Christ, m'arrêter sur trois arguments que je trouve incontournables et qui rendent irréfutable la possibilité du retour de Jésus-Christ. Le premier des arguments, je l'emprunte au domaine prophétique et je fais appel à vos mémoires, celles qui vous permettent de vous remémorer le texte qui nous a été lu par Bernard Sauvagnat il y a un instant. Le Christ, dans le chapitre 24 de l'évangile de Matthieu, répond en fait à une question posée par ses disciples. « Seigneur, dis-nous quand le temple que nous t'avons décrit sera détruit, et par voie de conséquence, quand est-ce que la fin du monde interviendra ?» Déjà, dans l'esprit des disciples, le fait que le temple puisse s'écrouler, et c'est une méprise, correspond à la fin du monde, c'est-à-dire à l'avènement du royaume de Dieu. Aussi, toute la difficulté de ce chapitre, le Christ va répondre à deux questions en même temps. Et quand le temple de Jérusalem sera détruit, et quand il reviendra. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est ne pas entrer dans cette dichotomie, bien au contraire, c'est de relever la catégorie dans laquelle nous nous trouvons, une catégorie prophétique. Jésus lui-même, répondant à ses disciples, va faire une prophétie extraordinaire. Il va donner un certain nombre de signes qui décrivent le moment où son retour devrait avoir lieu. Ces signes, nous les connaissons, je vous renvoie à la lecture de ce chapitre. Et il ponctue le listing de ces signes en disant « Je reviendrai de façon glorieuse » pour résumer. Ce qui doit nous intéresser ici, chers frères et sœurs, c'est de voir que le Christ lui-même fait une prophétie à propos de son retour. Et quand nous considérons tout ce que nous avons déjà dit à propos des prophéties bibliques, d'une part, qu'aux trois quarts, elles s'étaient réalisées, et que souvent elles nous étaient données dans le détail, comment douter d'une de ces prophéties données par Christ lui-même à propos de son propre retour ? Premier argument de poids, la prophétie que Jésus fait lui-même de son retour. Le deuxième argument, nous le connaissons, parce que nous aimons lire ce texte de Jean 14, que je lirai pour vous maintenant. Jésus dit à ses disciples, premier verset, « Ne soyez pas inquiets, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. » Croyez aussi en moi, pardon. « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup d'endroits pour habiter. C'est pourquoi je vous ai dit, je vais vous préparer une place. » Et quand je serai allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. De cette façon, vous serez vous aussi là où je suis. Et le chemin qui conduit là où je vais, vous le connaissez. Le Christ est en train de parler à ses disciples. À un moment particulier de son ministère terrestre. Il vient de leur annoncer sa crucifixion, sa mort. Et les disciples ne comprennent pas. On peut même imaginer qu'ils soient abattus du fait de cette annonce. Aussi, le Christ veut-il réconforter ses disciples et à travers ce réconfort, peut-être éviter la débâcle à venir et que nous connaissons. Que va faire le Christ ? Il fait une promesse à ses disciples. Inquiet. Il leur dit, oui, je vais partir. Comprenons, je vais mourir et ressusciter. Et je vais ensuite m'élever dans les cieux pour ne revenir que très très longtemps après. Mais l'essentiel de ce que vous devez retenir, c'est que je reviendrai. Parce que pendant tout ce temps, je vais vous préparer une place afin que, quand je reviendrai, je puisse vous prendre avec moi et qu'enfin, ensemble, nous puissions évoluer à tout jamais. Non seulement le Christ va faire de son retour une prophétie, nous l'avons vu, mais il en fait aussi une promesse adressée à ses disciples. Et je veux croire qu'aujourd'hui, nous sommes aussi ici les disciples de Jésus-Christ. Ceux à qui, si nous nous étions retrouvés dans les mêmes conditions, à ce même moment, il aurait dit « Ne vous inquiétez pas, je vais m'en aller, mais pour vous préparer une place. Et lorsque je reviendrai, je vous prendrai avec moi. » C'est une promesse de Jésus-Christ. Et enfin, le dernier argument dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 26. Et ma mémoire m'indique le verset 63. Mais Jésus se tait. Le grand prêtre lui dit, « Au nom du Dieu vivant, je te demande de répondre, est-ce que tu es le Messie, le Fils de Dieu ?» Jésus lui répond, « C'est toi qui le dis, mais je l'affirme, mais je vous l'affirme. À partir de maintenant, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant. Il viendra sur les nuages du ciel. » Nous sommes au moment du procès de Jésus-Christ. Un faux procès, puisque de faux témoins ont été appelés à témoigner à la barre. Et nous sommes dans la nuit, les choses ont tardé, tout le monde est fatigué, Jésus le premier. Et voilà que le souverain sacrificateur veut en finir avec ces débats qui se prolongent. Aussi se lève-t-il, nous pouvons l'imaginer, et pose cette question à Jésus le Christ. Je t'adjure devant le Dieu vivant de nous dire si tu es le Fils de Dieu. C'est une phrase qui a son poids. Le souverain sacrificateur demande à Jésus de jurer devant Dieu. D'où l'importance de la réponse de Jésus. Oui, dirons-nous, pour sa divinité, mais surtout en extension, vous verrez le Fils de l'homme sur les nuées, revenant. Donc non seulement Jésus va faire de son retour une prophétie, une promesse, mais un serment. Comment dès lors pourrions-nous douter une seule seconde de la réalisation de cet événement. Ne prenez pas mes paroles, mes mots pour de la culpabilisation. Prenez simplement ces paroles pour des encouragements. Des encouragements pour nous aider à passer les difficultés d'aujourd'hui, et dans les intentions de prière relevées il y a quelques instants, nous comprenons de quoi nous parlons. Il y a des familles qui souffrent. Il y a des familles confrontées à des difficultés terribles. Nous sommes tous un jour ou l'autre passés par là. Et je veux croire que pour passer au mieux ces difficultés-là, se dire qu'un jour et bientôt, le Christ reviendra pour que tout ceci puisse cesser, c'est se donner la possibilité de mieux passer l'épreuve d'aujourd'hui. La dépasser, nous pourrions dire. Mais en même temps, accepter à l'aide des indices et des éléments que nous avons donnés ce matin, le retour de Jésus-Christ, c'est aussi se mettre en phase avec la réalité, avec l'histoire, avec le point de l'histoire, avec sa ponctuation, c'est donc vivre mieux le réel aujourd'hui. C'est donner à son existence, à tout ce que je fais dans mon existence, un objectif réaliste. Orienter cela dans le bon sens, c'est-à-dire dans ce qui demain va arriver. Et enfin, je dirais qu'accepter cet objectif, ce rendez-vous, cet événement, le retour de Jésus-Christ, c'est, comme je l'ai déjà indiqué, se donner la possibilité d'une foi épanouie, parce que bien orientée, d'une foi qui engage tous les moyens, toutes les possibilités pour témoigner que bientôt Jésus-Christ revient. C'est là ma prière pour chacun d'entre nous ce matin. Amen.